Le journal Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Trouver un public malgré la fermeture forcée. Plusieurs théâtres vont ouvrir symboliquement leurs portes au public. Ils refusent en fait la mise sous cloche de la culture décidée par le gouvernement. Cela commence ce soir à Albi, vous l'entendrez.
Un verdict mesuré au terme d'un procès historique. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné les 14 complices des attentats de janvier 2015 entre 4 ans de prison et la réclusion à perpétuité.
Au Cameroun, ce sont des militaires que l'on juge aujourd'hui. Ils sont accusés d'avoir tué au moins 20 civils dans un village du pays en début d'année.
Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur la découverte de plus de 20 000 objets archéologiques dans l'est de la France. Le collectionneur aurait pillé plusieurs sites référencés.
Pourquoi les partis politiques ont-ils du mal à désigner leurs candidats à la présidentielle? Voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss, ce sera dans un quart d'heure. Ouvrir contre vents et marées, malgré l'interdiction, le Covid et les menaces gouvernementales. Comme un geste de résistance, quelques heures dans la journée pour le symbole. Voici le message que font passer plusieurs théâtres de France. Dans les jours qui viennent, ils ouvriront ponctuellement leurs portes. Ainsi, à Albi, la scène nationale décide d'accueillir du public dès ce soir, Anne Lamotte.
Ouvrir notre théâtre aujourd'hui, ce n'est pas désobéir, lance Martine Legrand, la directrice de la scène nationale d'Albi, c'est résister.
Ah oui, là pour le coup c'est un acte de résistance, là oui, tout à fait, là je vous suis complètement. Symboliquement, nous ouvrons le théâtre, nous n'en pouvons plus d'être fermés.
Une ouverture de 17h à 19h30, dans l'immense hall du théâtre et sur son parvis, une petite dizaine d'artistes va prendre la parole, jouer, faire du cirque, danser et on accueille le public gratuitement, explique Martine Legrand. Le temps est venu, dit-elle, de réagir.
Au départ, nous avons été très respectueux, donc assez silencieux, plutôt dans l'abnégation, un petit peu dans la résignation, c'est vrai. Mais maintenant, oui, on passe de la résignation à la colère. C'est une question de survie. La situation se tend beaucoup, oui.
Une question de survie économique, d'abord. La scène nationale d'Albi est subventionnée, mais son budget repose tout de même à 40% sur la billetterie. Et puis une question de survie intellectuelle aussi.
Être en contact avec des artistes, entendre leurs paroles, c'est notre plus belle raison de vivre et d'aimer. C'est vraiment un souffle d'air inestimable. À un moment donné, le manque, le vide est trop grand.
Et le tout tient à préciser Martine Legrand dans le strict respect des règles sanitaires.
En les respectant, qu'on nous laisse aussi maintenant travailler.
Voilà pour la résistance de théâtre un peu partout en France et notamment, on vient de l'entendre à Albi. Certains à Paris ont, je le rappelle, déposé un recours devant le Conseil d'État pour pouvoir rouvrir avant le 7 janvier. Idem pour les professionnels du cinéma. La rébellion culturelle pour préserver ce bien commun, c'est aussi ce qui se passe dans de nombreux pays et ce matin, nous vous emmenons par exemple en Cisjordanie occupée. Une troupe de jeunes comédiens de Ramallah a décidé de jouer une pièce ambulante représentant ironiquement une mise aux enchères d'acteurs. C'est un reportage d'Alice Froussard.
Sur scène, deux musiciens, trois acteurs, dont un commissaire-priseur.
C'est le village !
Le ton est lancé, c'est une vente aux enchères qui est jouée.
Il s'appelle Machin, mais son nom importe peu. C'est un professionnel, mais on ne lui a pas encore donné la chance d'être un professionnel. Il est très courageux, mais il n'a pas encore eu la chance d'être courageux.
Ici, on vend des comédiens, car ils n'ont plus trop d'utilité, précise l'actrice principale avant de lancer les enchères. Elle débute à 10 centimes, finit à 15. Mariam Bacha, jeune comédienne palestinienne, a écrit cette pièce, sa première en tant que dramaturge, en écho à la situation actuelle.
Nous, en tant qu'artistes, on est un peu devenus bon marché, si je puis dire. On se vend si peu cher en ce moment, afin d'avoir l'opportunité de créer, contribuer au monde artistique. Tout nous retient dans notre création. Et ce n'est pas seulement à cause de l'occupation, ça vient aussi de la situation économique et financière du pays. C'est comme si on attendait un événement qui risque de ne jamais arriver. Et il y a la pression, l'angoisse qui va avec. C'est de tout ça dont parle la pièce.
Tous les membres de la troupe sont volontaires et ils espèrent pouvoir continuer à attirer l'attention du public, des spectateurs, des institutions pour vivre leur métier comme avant.
Alice Froussard, à Ramallah pour France Culture. Des accusés condamnés à la stricte hauteur des faits dans un procès pourtant qualifié d'historique. Procès des attentats de janvier 2015. Hier, les 14 accusés ont été déclarés coupables de complicité, les terroristes ayant été tués en 2015. Coupables donc et emprisonnés entre 4 ans de prison et la perpétuité. Florence Turm, pour France Culture, a assisté au rendu de ce verdict plutôt nuancé donc.
À l'énoncé du verdict, un long silence empreint d'émotion, quelques larmes aussi parmi les parties civiles présentes dans la salle. Leurs avocats saluent pour la plupart une décision mesurée qui restera dans l'histoire. Laurence Sechman représente plusieurs familles de victimes de l'hypercachère.
Moi, ce que je retiens et ce qui est extrêmement intéressant dans ce verdict, même s'il est contrasté, même si on peut, comme ça, avec quelques touches, regretter que certains ne soient pas davantage impliqués ou retenus dans une implication terroriste, mais il n'en demeure pas moins que vous avez ici que des coupables. Tous coupables. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. Ils ont tous, de près ou de loin, participé aux tueries. Et c'est ce que la cour d'assises de Paris vient nous dire aujourd'hui.
Les avocats de la défense, eux, avaient dénoncé la faiblesse des preuves et le vide du dossier. Serez-vous assez courageux pour acquitter Miguel Martinez, avait lancé Margot Pugliese à l'adresse de la cour. Les juges ne sont pas allés jusque-là, mais prononcer une peine bien moindre que les 15 ans requis par l'accusation, 7 ans d'emprisonnement et surtout l'abandon de la qualification terroriste.
Officiellement, Monsieur Martinez, il a été reconnu que ça n'était pas un terroriste. Et ça, c'est le plus important. La crainte, c'était vraiment que les magistrats se laissent submerger par des pressions extérieures, des peurs qui nous sont personnelles dans ces affaires-là. Il y a 3 attentats qui ont été commis pendant ce procès, donc le risque que la justice ne soit pas rendue de manière sereine me paraissait grand, ça n'a pas été le cas, c'est un immense soulagement, vraiment.
Reste la colère de l'avocate d'Ali Rizapolat, reconnue coupable de complicité et condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Pour Isabelle Coutempère, les vrais coupables n'étaient pas dans le box. La défense a déjà annoncé son intention de faire appel.
Florence Turm, dont vous pouvez retrouver les nombreux articles, chroniques judiciaires et entretiens avec des chercheurs sur ce procès du terrorisme qui a jugé une actualité brûlante. Articles donc et chroniques sur franceculture.fr grâce à la mobilisation de la rédaction radio et numérique. Je précise que nous reviendrons aussi sur la portée du verdict énoncé hier dès la fin de cette édition avec vos invités des matins, Guillaume.
En effet, le magistrat et chercheur Denis Salas ainsi que la journaliste au Monde, Pascal Robert-Diard. Mais avant ça, à 8h07, c'est la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal. Une journée de grève est prévue aujourd'hui à la RATP.
Oui, l'ensemble des syndicats de la régie parisienne protestent contre l'ouverture à la concurrence programmée pour les prochaines années. Cela commencera par le réseau de bus en 2025. Autre grève annoncée ce jeudi chez EDF. Plusieurs syndicats protestent contre le projet dit Hercule pour réorganiser le groupe. Les élus, les syndicats font savoir que ni l'État ni les consommateurs n'y trouveront leur compte. L'électricien historique sera en fait scindé en 3 entités avec l'idée là encore d'une mise en concurrence prochaine à leur choix.
La demande vient de Bruxelles, cela fait 20 ans maintenant que la Commission exige de ses États membres, avec leur aval, la libéralisation du marché de l'électricité. Mais en France comme ailleurs, mettre en concurrence la production et la distribution de cette énergie principalement nucléaire et produite par un opérateur historique est compliqué. L'infrastructure est lourde et l'enjeu éminemment stratégique. Sans compter que l'obligation faite à EDF de revendre une partie de son électricité à ses concurrents n'a pas vraiment fait baisser le coût pour le consommateur. Et puis EDF porte depuis plusieurs années une lourde dette. Mais Bruxelles est revenue à la charge et la direction d'EDF propose donc un plan, le plan Hercule, qui scindrait l'opérateur historique en 3. EDF vert, qui s'occuperait des énergies renouvelables et qui serait ouvert à des capitaux privés. EDF bleu, détenu à 100% par l'État, qui serait en charge du nucléaire, le secteur historiquement déficitaire. Et EDF azur, qui récupérerait notamment les barrages hydroélectriques, ce que les syndicats estiment être une nationalisation des pertes supportées par l'État et donc le contribuable, et une privatisation des profits, les énergies renouvelables et les services commerciaux et de distribution. Ils ont rallié à leur cause certains députés, notamment socialistes, qui annoncent le lancement d'une procédure de référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, utilisé pour tenter d'empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris. Certains députés de droite sont sur la même longueur d'onde. Tous craignent, en outre, que le Parlement ne soit pas suffisamment associé à ce projet de réforme d'EDF.
Au Parlement aujourd'hui, c'est un marathon budgétaire qui doit s'achever. Projet de budget 2021, il ne prévoit pas encore une nouvelle troisième vague de Covid-19. Notez qu'il a déjà fallu rajouter 8 milliards d'euros aux dépenses initialement prévues. Pas sûr d'ailleurs qu'une troisième vague soit évitée en début d'année prochaine, car les vaccinations vont s'échelonner très lentement. Les premiers vaccins en France pourront être administrés après l'aval européen qui est prévu lundi. Cela amène à la dernière semaine de décembre pour les personnes âgées. Le reste de la population devra attendre la fin du printemps, précision hier du Premier ministre Jean Castex. Et a priori, le vaccin administré pourra être celui proposé par le duo américano-allemand Pfizer-BioNTech. Pour France Culture, Marie-Pierre Véraud s'est rendue près de son usine européenne dans les Flandres à Purse, premier site de production de Pfizer sur le continent. C'est une fierté pour les habitants.
La bourgade de Purse, au cœur des Flandres, était surtout connue pour sa bière et ses asperges. Mais depuis la rentrée, elle voit les journalistes du monde entier se presser devant l'usine Pfizer, là où sont produites les dizaines de millions de doses du vaccin anti-Covid promis à l'Europe. Et le maire, Koen Van de Nevel, ne cache pas sa fierté.
Nous sommes heureux que Pfizer a choisi Purse pour produire ses vaccins. Le secteur pharmaceutique est assez important chez nous parce qu'on n'a pas uniquement l'entreprise de Pfizer. Il y a plus de 5500 emplois dans le secteur pharmaceutique ici à Purse. C'est très important parce que c'est un secteur assez innovatif pour le futur, plutôt croissant, durable, pas beaucoup de pollution et aussi bien payé. Et ça, c'est bon pour l'économie locale.
Pfizer a trouvé à Purse un environnement accueillant à son développement, mais pour autant, regrette Isabelle, la pharmacienne, la population n'aura pas de régime de faveur.
Je ne pense pas que le maire va pouvoir demander à Pfizer de mettre nous sur la première ligne pour avoir le vaccin. On doit attendre que les vaccins de Belgique seront livrés ici.
Une attente peut-être plus courte que prévu. La vaccination pourrait débuter avant la fin de l'année.
Marie-Pierre Véraud. Trois militaires camerounais sont jugés aujourd'hui dans le pays, jugés pour avoir tué en début d'année plus de 20 civils dans un village dans l'ouest du Cameroun. C'est un récit signé Claude Guibal.
Des femmes enceintes, des bébés, des enfants en bas âge, des victimes abattues ou parfois brûlées vives. Le 14 février dernier, dans les décombres du village de Ngarbou, les ONG comptent plus de 20 morts. Les témoins sous le choc racontent alors cette opération menée, selon eux, par des forces gouvernementales camerounaises aidées de membres armés de l'ethnie Peul. À l'époque, l'État camerounais dément parle de riposte à une attaque terroriste avant de devoir, sous la pression internationale, ordonner une enquête. Et aujourd'hui, ce sont trois militaires qui seront donc à la barre. Les autres inculpés sont, eux, toujours en liberté. Mais pour les familles des victimes et pour les défenseurs des droits humains, l'ouverture de ce procès est un pas important dans la lutte contre l'impunité, alors que ce massacre est une des pires exactions imputées aux forces de sécurité camerounaises depuis le début de la crise au Cameroun anglophone. Depuis 2017, cette région à l'ouest du pays vit en effet une guerre presque silencieuse qui a pourtant déjà fait plus de 3000 morts. Les séparatistes réclament l'indépendance de deux régions anglophones, un conflit hérité de l'époque coloniale et ravivé par la gestion brutale des revendications séparatistes par le régime de Paul Biya. Après la lourde répression de 2017, les groupes sont passés à la lutte armée. Et depuis, les civils sont pris au piège des violences qui opposent les séparatistes à l'armée, des civils victimes des exactions des deux camps qui, en les terrorisant, cherchent à les faire basculer de leur côté.
La Chine a rapporté cette nuit sans encombre des échantillons de lune, première mission de ce type en 44 ans. La revue de presse internationale de France Culture ce matin y était consacrée, elle est à retrouver en podcast et sur notre site internet. Dans l'est de la France, c'est un trésor, non pas lunaire, mais archéologique tout de même, qu'a amassé un particulier, un collectionneur pilleur, pourrait-on dire. Les douanes ont saisi 27 400 objets. Reste maintenant à trouver d'où ils viennent, Cécilia Arbona.
Le pilleur du Grand Est, comme on le surnomme dans cette affaire, n'est peut-être pas un voleur isolé. Il a dû bénéficier de complicité tant il a réussi à ratisser large avec son détecteur de métaux qu'il a mené de la frontière belge à l'Alsace-Lorraine en passant par la Champagne-Ardenne. Frédéric Sehara, conservateur régional de l'archéologie à la direction des affaires culturelles de Strasbourg.
On a toute l'histoire de la métallurgie qui est illustrée par ces objets, donc ça va de l'âge du bronze vers 2000 avant notre ère, jusqu'aux périodes modernes, avec les monnaies, qui était l'époque gauloise, des éléments de vêtements également, des instruments de boucherie, par exemple, des couteaux, de l'armement, etc.
Malgré ses 30 ans d'expérience, cet archéologue est pour la première fois de sa carrière confronté à de mystérieux objets.
Un dodécaèdre de période antique, donc c'est un objet métallique donc qui présente 12 faces avec sur chacune des faces une perforation. Il y a déjà très peu d'exemplaires connus, il y en a moins d'une centaine à l'échelle européenne. Très énigmatique dans le sens où on ne sait pas bien définir la vocation religieuse, cultuelle, éventuellement des éléments de jeu pour faire de l'astronomie. C'est un sentiment de gâchis quelque part. Des objets rares, sortis de leur contexte, perdent énormément de leur information archéologique. Donc nous, on souhaite que cet exemple hors norme serve de leçon aussi et montre que on peut pas s'approprier le patrimoine de cette manière-là.
Un avertissement à des braconniers de la Terre qui exhument, piétinent et effacent des pans entiers de notre histoire.
C'est pour préserver l'histoire aussi que l'UNESCO fait la liste d'un patrimoine à préserver. Sachez qu'hier, le couscous a été ajouté à la liste de ce patrimoine immatériel de l'humanité, tout comme le chamamé argentin et le savoir-faire horloger qui fait la fierté de la Suisse et de Besançon en France. La météo de ce jeudi, des pluies vont s'éloigner par l'est au fil de la journée et puis compter ce matin entre 4 et 14 degrés du nord au sud, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. Dans quelques instants, on va évoquer à nouveau le procès des attentats de janvier 2015. Nous serons en compagnie du magistrat et chercheur Denis Salas, rejoint par la chroniqueuse judiciaire au Monde, Pascal Robert-Diard. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez mes camarades Hervé Gardet, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et puis un billet politique avec vous, Frédéric Seyss. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous allez évoquer un refus d'obstacle.
Oui, celui du choix du candidat à la présidentielle. Hier, les Républicains ont décidé de reculer pour mieux sauter.